Réplique, Pasolini face au monde moderne avec René de Secatti et Olivier Rey.
Une définition de moi-même,
oui.
C'est comme demander la définition de l'infini. Il y a un infini intérieur et un infini extérieur. Eh bien, quand je pense à moi-même, je pense à quelque chose d'infini. Pour vous, je suis une chose bien finie, mais pour moi, je suis infini. Je suis le miroir de l'infini extérieur. C'est impossible pour moi de me définir. Alors, je pourrais rappeler une phrase qui dit Elsa Morante de moi. Elle dit que je suis un narcissique qui a un amour erré pour soi-même. J'ajoute que j'ai aussi un amour malheureux pour le monde.
Même si ces films ne passent plus guère sur les chaînes cinéma de la télévision, Pasolini est d'abord connu en France comme cinéaste. Son nom est associé à Catone, La Passion selon Saint-Mathieu, Œdipe Roi, Théorème, Médée, Le Décaméron, Les Mille et Une Nuits, Salo ou Les 120 Journées de Sodome. On sait moins que Pasolini fut aussi, avec la même prolixité, avec la même intensité, poète, romancier, penseur. C'est précisément du penseur qu'à l'occasion de l'apparition de Chaos, un recueil d'articles écrits entre 1968 et 1970, nous allons parler avec le philosophe Olivier Rey et avec René de Secatti, qui a traduit de nombreux textes de Pasolini et qui lui a consacré plusieurs essais importants. Dans l'ultime entretien que Pasolini a donné, quelques heures seulement avant sa mort tragique, le samedi 1er novembre 1975, il déclarait « Le petit nombre d'hommes qui ont fait l'histoire sont ceux qui ont dit non, jamais les courtisans ou les valets des cardinaux. » Or, à l'époque où il s'exprimait ainsi, tous les intellectuels disaient non. Le refus régnait en maître. Il n'y avait pas de place pour l'acceptation. « Oui » était un mot imprononçable. Qu'avait donc d'original, de singulier, de solitaire, dans ce climat hypercritique, le nom de Pasolini, Olivier Rey?
Oui, c'est un nom extrêmement singulier. Alors je crois que pour bien comprendre cet honneur, il est nécessaire de prendre quelques éléments contextuels. Depuis la révolution industrielle, le monde change à une vitesse inouïe. Et tous autant que nous sommes amenés à vivre dans l'inédit, dans le sans précédent. Et face à cela, il y a trois attitudes très répandues. Alors la première, c'est le déni. On dira à ce moment-là que toutes les époques sont inédites et la nôtre pas plus que les autres. La deuxième attitude, c'est l'enthousiasme. Alors dans ce cas, on reconnaît qu'il y a vraiment du nouveau, mais c'est pour s'en enchanter. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère où tous les problèmes vont trouver leur solution grâce au progrès technologique et à l'intelligence artificielle, la mort y compris. Puis la troisième attitude, qui est partagée, il faut le dire, par la plupart d'entre nous, c'est une sorte d'atonie. Le nouveau d'hier est chassé par le nouveau d'aujourd'hui, qui lui-même sera chassé par le nouveau de demain, et nous nous habituons à tout. Nous perdons le sens de ce qui nous arrive et nous suivons simplement le mouvement. Et Pasolini s'inscrit en faux contre ces trois attitudes. Premièrement, il estime que ce qui nous arrive depuis un siècle est une rupture radicale avec tout ce qui a précédé, quelque chose d'absolument sans équivalent dans l'histoire. Deuxièmement, il estime que ce bouleversement est une catastrophe. Et troisièmement, tout au long de sa vie, il n'a jamais pu s'y faire aussi peu que ce soit. Peggy disait qu'il n'y a rien de pire qu'une âme habituée, et Pasolini est vraiment le contraire d'une âme habituée.
René de Secatti.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Olivier Rey, mais moi j'ajouterais que l'originalité du nom de Pasolini par rapport au nom que vous voyez partout répandu, c'est qu'il disait non à lui-même et qu'il disait non à ceux qui disaient non. C'était ça, la singularité de Pasolini. D'abord, il était capable de s'abjurer lui-même, de se nier lui-même. Il disait que c'était que le droit à la contradiction était un droit fondamental des poètes. Et par ailleurs, il disait non aux contestations. Donc c'était une chose, surtout dans ces années-là, hein, les années du chaos, c'est-à-dire en 68, quand il tient cette chronique, il vient d'écrire un poème qui a été terriblement critiqué, qui est le poème aux étudiants, où il donne raison aux policiers contre les étudiants. Et donc, il se singularisait aussi dans un climat de contestation, il se singularisait lui-même. Et dans, à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau artistique. Et voilà. Seulement, bien sûr, hein, le nom fondamental, c'était le nom au fascisme. À une période où le oui était quand même beaucoup plus courant que son nom à lui.
Alors, vos deux interventions m'inspirent deux réflexions. La première, Olivier Rey, c'est que Pasolini est en effet habité par le sentiment de la perte, du jamais plus. Un monde est en train de s'écrouler, il emporte le deuil, ce qui évidemment le met en porte-à-faux avec les marxistes orthodoxes, avec tous les progressistes. Il a la nostalgie du vieux monde, alors que pour eux, si ce monde part en fumée, c'est pour faire place au nouveau. Donc sentiment tragique de la vie en lieu et place du progressisme qu'on attend de ceux qui disent non. Et puis alors, là, je suis aussi très sensible à votre évocation, René de Secatti, parce que moi, le premier texte de Pasolini qui m'a impressionné, c'était dans Écrit corsaire, hein, le discours des cheveux. C'est absolument extraordinaire. Je portais les cheveux longs, d'ailleurs. Et je détestais aller chez le coiffeur. J'aime toujours pas ça. Donc, je me suis senti visé. Hein. La première fois que j'ai vu des chevelus, c'était à Prague. Dans le hall de l'hôtel où j'étais descendu, sont entrés deux jeunes étrangers portant des cheveux jusqu'aux épaules. Ils ont rien dit, explique Pasolini. Ils n'avaient pas besoin de parler parce que ils se servaient pour communiquer avec les personnes présentes d'un autre langage que celui formé par les mots. C'était le langage de leurs cheveux. Et dit-il, ces cheveux longs, c'est quelque chose de terrible parce que ils enferment la jeunesse dans un monde à part. Et ces jeunes sont allés plus loin en arrière que leurs pères en ressuscitant dans leurs âmes des terreurs et des conformismes et dans leur aspect physique des conventions et des misères qui semblaient à jamais dépassées. Et il termine en écrivant « Le moment est venu de dire aux jeunes que leur façon de se coiffer est horrible parce que servile et vulgaire. Plus, le moment est venu pour eux de s'en apercevoir et de se libérer de la préoccupation coupable de se conformer à l'ordre dégradant de la horde. » Donc, dans le nom de Pasolini, il y a une hostilité à tous les autres nanistes. Parce qu'ils voient du conformisme, voilà, de leur nom.
Quand ils soupçonnent un conformisme.
Voilà.
Et donc, en effet, ils détestaient tous les comportements collectifs, quels qu'ils soient. C'est un individualiste. Alors, pour en revenir à la citation de l'ouverture de l'émission, où il cite Elsa Morant, qui se moque de son narcissisme, alors qu'elle-même l'était, et d'ailleurs ils ont tous les deux écrit un texte sur Narcisse. Elsa Morant a réagi à ce texte, parce que elle était beaucoup plus proche, justement, des contestataires, des capelloni, comme on les appelait, les cheveux longs. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose que Pasolini a totalement manqué. Il y avait une chose qu'il détestait, Pasolini, c'était la tolérance. Il a écrit des textes très très violents contre la tolérance, comme si le fait d'accepter quelque chose qui jusque-là avait été interdit amoindrissait la chose qui était interdite, et donc il voulait être toujours en effet dans la résistance, dans le refus. Il avait une situation paradoxale, parce qu'il était pédagogue, il voulait convaincre les gens, mais à partir du moment où il les avait convaincus, il se méfiait des arguments qu'il avait utilisés pour les convaincre, ce qui rend sa situation politique très complexe.
Olivier Rey.
Il a vécu son âge adulte entre 45 et 75, donc essentiellement aussi pendant la guerre froide. Ce qu'il a vu aussi advenir à cette époque, c'est l'avènement de la société de consommation qui lui a semblé absolument monstrueuse.
Là, monstrueuse, c'était un cataclysme anthropologique pour lui.
Voilà, c'est ça. Il dit « Ce n'est pas un changement d'époque que nous vivons, mais une tragédie. Ce qui nous bouleverse, ce n'est pas la difficulté de nous adapter à une époque nouvelle, mais une inguérissable douleur semblable à celle qu'ont dû éprouver les mères qui voyaient leurs fils partir pour émigrer en sachant qu'elles ne le reverraient jamais plus. La réalité nous lance un regard de victoire intolérable. Son verdict est que tout ce que nous avons aimé nous est enlevé à jamais. » Bon, là, donc, c'est très, très, des paroles très, très fortes. Alors, il se trouve que, donc, dans cette atmosphère de guerre froide, où on avait un partage entre une droite qui avait totalement pactisé avec les milieux d'affaires, on avait de l'autre côté une gauche qui était la seule opposition crédible, qui était en Italie en particulier dominée par le Parti communiste. Et à partir du moment où la démocratie chrétienne était le parti au pouvoir, au moment de cet avènement de la société de consommation, il se retrouvait obligatoirement du côté des communistes qui luttaient contre cela, mais évidemment avec un marxisme très très particulier chez Pasolini, parce que précisément lui, il voulait la révolution pour sauver le passé. Il le dit explicitement à certains moments. Alors pour une histoire de demeure, il avait été exclu du Parti communiste en 1949. Il en est resté malgré tout un compagnon de route. Mais je pense que cette exclusion, cette marginalité quand même par rapport au Parti communiste lui a aussi évité par la suite, même si elle était très douloureuse sur le moment, un certain nombre de tensions très fortes. Parce que évidemment, il y avait entre la manière qu'avait Pasolini de s'opposer à la société de consommation et la lecture qu'en faisaient les communistes, beaucoup de différences.
Et oui,
pour ajouter une petite chose à propos du Parti communiste, il y avait aussi le fait qu'il était poète, qu'il était romancier, et que le Parti communiste avait très mal accueilli ses premiers romans, enfin les deux grands romans, Una vita violenta et Ragazzi di vita, parce que avec l'éternel procès que le Parti communiste faisait pour les gens qui parlaient du prolétariat et qui n'en parlaient pas en termes de lutte de classe, ce qui était le cas de Pasolini, le fait de détourner l'attention vers autre chose que ce qui leur semblait la priorité politique. Donc c'était, il ne faut pas oublier que ces deux romans ont été condamnés par le Parti communiste. Et bien sûr, les Cendres de Gramsci, le grand recueil de poèmes de Pasolini, était une critique du Parti communiste. Donc le lien entre, même s'il n'a jamais renoncé au fait d'être marxiste et communiste, le lien avec le Parti communiste était très conflictuel tout le temps.
Très conflictuel parce que la divergence était très profonde. Vous citez dans votre préface à Chaos, Olivier Rey, une phrase célèbre du manifeste du Parti communiste. Tout ce qui avait solidité et permanence en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, mais Marx et Engels mettent ça au crédit de la bourgeoisie, du capitalisme. Ça fait place nette pour le Nouveau Monde, alors que Pasolini s'en inquiète. Et puis il y a aussi cette phrase extraordinaire dans les lettres luthériennes, « Souviens-toi que moi, ton maître, je ne crois pas en cette histoire et en ce progrès. » Il n'est pas vrai que de toute façon l'on avance. Bien souvent, l'individu, tout comme les sociétés, régresse ou se détériore. Dans ce cas, la transformation ne doit pas être acceptée. Son acceptation réaliste n'est en réalité qu'une manœuvre coupable pour tranquilliser sa conscience, pardon, et continuer son chemin. Alors, il dit non, là, le non de Pasolini, il l'adresse au progrès lui-même. C'est-à-dire à l'idée que l'évolution et forcément une amélioration. Et donc là, nous sommes au cœur de sa pensée et de ce qu'elle a évidemment d'irréductible.
Vous savez, dans une lettre qu'il a écrite à un de ses amis, Franco Farolfi, il disait « Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre à la campagne, dans son village natal, entouré d'amis ». Voilà, voilà quand même quel était l'idéal de vie de Pasolini.
Il avait une nostalgie profonde pour le monde pré-industriel, comme il disait, et c'était là aussi une raison, un motif de dissension avec Moravia, dont il était très proche. Et Moravia, ils étaient vraiment très très liés politiquement, amicalement et sur tous les plans, littérairement. Et Moravia trouvait évidemment que c'était une position assez réactionnaire, parce que il idéalisait le monde paysan comme si c'était en effet un monde paradisiaque. Et alors que c'est ce monde-là qui l'a fait le plus souffrir en réalité, parce qu'il a été expulsé du Frioul de manière extrêmement violente. Donc il avait une confiance dans un monde qui précédait l'industrialisation, dont il ne voyait que les défauts.
Si je peux dire quand même un petit mot justement, parce qu'effectivement c'est un reproche qui a été énormément formulé contre Pasolini, d'idéaliser le passé. Et dans un entretien, il répond à cette accusation, je trouve, de manière extrêmement intéressante. Parce que, en fait, il considère encore une fois que ce qui arrive avec l'avènement de la société de consommation est absolument sans précédent. Et ça n'est pas une transformation. C'est pour lui, ça représente une destruction totale. Et il compare ça à un cancer. Et il dit ici, il manque un chirurgien qui ait le courage d'examiner le tissu et de dire, messieurs, c'est un cancer, ce n'est pas une affaire bénigne. Qu'est-ce que le cancer? C'est une chose qui change toutes les cellules, qui les fait toutes grandir de façon folle, hors de toute logique précédente. Est-il un nostalgique, ce malade qui rêve à la santé qu'il avait auparavant, même si auparavant il était idiot et malheureux? Avant le cancer, je veux dire. Donc, si vous voulez, il n'a pas forcément besoin d'idéaliser le passé pour dire que le passé doit être préservé. Parce que ce qui compare, ce ne sont pas deux états comparables, justement. Il compare un état de santé avec un état maladif. Mais ça ne veut pas du tout dire que quand on est en bonne santé, on est heureux.
Alors, revenons justement à ce qu'il appelle consommation. Il dit, Pasolini, toujours dans l'écrit corsaire, la fièvre de consommation est une fièvre d'obéissance à un ordre non énoncé. Alors, veut dire cette phrase et autre question, êtes-vous d'accord avec cette définition de la consommation, René Zucchetti?
Je pense que quand il appelait consommation, consumérisme, c'était en fait la perte même de l'objet du désir. C'est-à-dire que le problème, c'est que la consommation devient une fin en soi, indépendamment de ce que l'on veut obtenir, de ce que l'on recherche. C'est une sorte de déperdition de l'objet même et de déshumanisation aussi. C'est-à-dire que l'individu qui se perd, c'est le même problème que l'on a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'individu qui se perd dans un mouvement collectif où il devient lui-même l'instrument d'une industrie. C'est-à-dire que les personnes, ce qu'on observe en plus, beaucoup plus maintenant, c'est-à-dire 40 ans après sa mort, c'est que toute une jeunesse pauvre désire quelque chose qu'elle ne peut pas se payer et ne sait même plus ce qu'elle désire. Elle ne le fait plus que par conformisme. Alors ça touchait aussi l'art. Et Pasolini en était conscient, parce que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il allait avoir un succès gigantesque en tant que cinéaste, et que ces films eux-mêmes devenaient objets de consommation. C'est la raison pour laquelle il les a abjurés, en disant « ça y est, moi-même j'ai été piégé dans un système que j'ai dénoncé ».
Oui, je crois qu'on peut dire aussi à propos de la consommation, en fait nous ne venons pas au monde humain, mais capable d'humanité. Et c'est en grandissant à l'intérieur d'une certaine culture que l'on va s'accomplir en tant qu'humain. Et ce que voyait Pasolini avec l'avènement de la société de consommation, c'était la destruction de toutes les innombrables cultures qui s'étaient édifiées pour humaniser les petits hommes. Et alors c'était particulièrement dramatique pour les couches populaires, dans la mesure où enlevaient leur culture populaire pour les projeter dans un univers de la consommation où ils n'étaient plus que pauvres. C'est-à-dire que on leur retirait leur seul bien pour les projeter dans un monde où ils seraient nécessairement les perdants. Il y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est que René Zucchetti a dit très justement tout à l'heure que la première opposition de Pasolini, ça a été une opposition au fascisme. On pourrait d'ailleurs préciser que son frère cadet est mort pendant la Seconde Guerre mondiale dans un groupe de résistants au fascisme.
Mais tué lui-même par un autre groupe de résistants au fascisme.
Voilà,
une situation paradoxale et terrible.
Oui. Mais en fait, ensuite, ce qui a frappé Pasolini, c'est que quand il a vu la société de consommation arriver, il a dit à un moment donné, arrêtons de lutter contre ce qu'il a appelé un paléofascisme qui est liquidé et attaquons-nous au vrai mal de notre époque, qui est celui de la consommation.
Alors, il n'hésitait pas à appeler ce mal fasciste, d'ailleurs.
Voilà, alors bon, là on peut dire que c'est un problème rhétorique, peut-être vaudrait-il mieux, l'hygiène intellectuelle vaudrait mieux que l'on réservât ce mot de fascisme à un certain phénomène historique. Mais je pense qu'aussi, il faut le comprendre, il s'exprime à une époque avec, il s'adresse à des gens pour qui l'ennemi, c'est toujours le fascisme. Et donc, c'est aussi une manière de leur dire, mais écoutez, puisque vous voulez lutter contre le fascisme, luttez contre le fascisme d'aujourd'hui qui est celui-ci.
Il faut quand même rappeler que les fascistes étaient toujours au pouvoir. Vous savez, il n'y a pas eu d'épuration. Alors, on peut regretter l'épuration en France, mais il n'y a pas eu d'épuration en Italie. Donc, des gens qui avaient sous Mussolini un véritable pouvoir administratif, politique, économique, étaient toujours là. Et donc, ça fait quand même un sens pour Pasolini de continuer à utiliser le terme.
Mais peut-être raison de plus pour ne pas l'appliquer à la société de consommation.
Oui, vous avez raison.
Fièvre d'obéissance à un ordre non énoncé. Il se place immédiatement dans le registre de l'aliénation, de la manipulation, de l'endoctrinement. Et d'où, effectivement, l'image du fascisme. Et personnellement, on peut comprendre, en effet, qu'il y a des phénomènes de conformisme quand on s'achète à chaque fois un nouveau portable, etc. Et qu'on obéit, là. Je suis plus sensible, je dois dire, à la description qu'Hannah Arendt donne de la consommation, qu'elle critique également dans la condition d'homme moderne, puisqu'elle parle d'une croissance non naturelle du naturel. Et la passion du bien-être est une aspiration humaine fondamentale. Et le problème avec la modernité, c'est qu'elle prend toute la place. Nous sommes portés par l'idéal d'abondance au détriment de toutes les autres aspirations humaines. Et la vie et le souverain bien, et je trouve la description d'Arendt absolument extraordinaire, quand elle dit, avec le besoin que nous avons de remplacer de plus en plus vite les choses de ce monde qui nous entoure, eh bien, nous ne pouvons plus nous permettre de les respecter et de préserver leur inhérente durabilité. Il nous faut consommer, dévorer, pour ainsi dire, nos maisons, nos meubles, nos voitures, comme s'il s'agissait des bonnes choses de la nature. Vous voyez, c'est une espèce de prolifération absolument effrayante, mais à partir de quelque chose que nous avons en nous. Et s'il avait considéré la consommation comme cela, peut-être Pasolini aurait-il évité la métaphore du fascisme, parce que le fascisme, c'est exclusivement un pouvoir. Est-ce qu'on peut parler en termes de pouvoir? Oui, il y a remplacement de la culture populaire par la culture de masse, mais l'adhésion qu'on y donne, eh bien, elle vient précisément de ce que c'est un besoin, malgré tout. Un besoin terrifiant, mais un besoin qui s'exprime. Olivier.
Oui, mais enfin, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas exagérer l'emploi qui fait du terme de fascisme pour désigner la société de consommation, qui encore une fois, à mon sens, était très conjoncturel. Et il faisait d'ailleurs très très bien la différence entre les deux, puisqu'il dit, ça m'a beaucoup frappé, il dit, au temps du fascisme, les jeunes étaient encadrés et en uniforme, mais il y a une différence, justement, avec la période qui a suivi. Il dit, en ce temps-là, les jeunes, à peine enlevaient-ils leurs uniformes et reprenaient-ils la route vers leur pays et leurs champs, qu'ils redevenaient les Italiens de 50 ou de 100 ans auparavant, comme avant le fascisme. Le fascisme avait en réalité fait d'eux des guignols, des serviteurs, peut-être en partie convaincus, mais ils ne les avaient pas vraiment atteints dans le fond de l'âme, dans leur façon d'être. En revanche, la société de consommation a profondément transformé les jeunes. Elle les a touchés dans ce qu'ils ont d'intime. Elle leur a donné d'autres sentiments, d'autres façons de penser, de vivre, d'autres modèles culturels. Il ne s'agit plus, comme à l'époque mussolinienne, d'un enrégimentement superficiel, scénographique, mais d'un enrégimentement réel qui a volé et changé leur âme. Bon, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, il sait très bien qu'il y a une différence. Et justement, vraiment, dans ce que je viens de citer, non seulement il dit qu'il y a une différence, mais il dit que c'est beaucoup plus grave ce qui se produit.
Mais je crois aussi que...
René Zecatti.
Je crois aussi que sa critique très très violente de la société de consommation venait du fait qu'il pensait qu'il y avait une société qui en cachait une autre. C'est-à-dire que cette société de consommation... qu'après tout, on avait le droit au bien-être, en effet, cachait toute une autre population qu'il a essayé justement de représenter dans ses films. Parce que je prends l'exemple de l'Évangile selon saint Matthieu. Vous savez qu'il avait eu le projet d'abord de tourner le film en Israël, et finalement il ne l'a pas fait, il a préféré le tourner en Italie, dans les Pouilles, parce qu'il s'est dit, après tout, il y a cette population extrêmement pauvre et poétique, à laquelle il donnait aussi une valeur de poésie et esthétique, qui est toujours là et qu'on ne montre pas, et qui peut être représenté exactement comme il avait fait dans ses romans. Hein, dans ses romans, il y avait toute une population que les lecteurs ont brusquement découverte et qui était aux portes de la ville, qui était aux portes de Rome, à un moment où Rome était en train d'évoluer. Donc, je pense qu'il y avait chez lui cette idée, pour ça, pour justifier encore une fois justement le fascisme en tant que guignolade qui dissimule autre chose, je pense que c'était aussi ça dans son esprit.
Oui, enfin, en même temps, il a le sentiment que ce peuple est en train de disparaître. Dans les lettres luthériennes, Pasolini écrit « Si aujourd'hui je voulais tourner à nouveau à Cattenay, je ne pourrais plus le faire. Je ne trouverai plus un seul jeune qui soit semblable dans son corps, même vaguement, aux jeunes qui se sont représentés eux-mêmes dans Acatonnet. » Et donc, il en vient, non plus simplement à utiliser le terme de fascisme, mais à mobiliser celui de génocide. Il dit, entre 1961 et 1975, il y a eu un génocide, on a détruit culturellement une population. Et là, moi, ce terme me gêne aussi, parce que Pasolini oublie là l'événement littéral qui a fait naître le mot de génocide sous la plume de Raphaël Lemkin, et cet oubli, je le retrouve, et là pour moi de manière un peu scandaleuse, dans son projet de film sur Saint-Paul, que résume et glorifie Alain Badiou. Il dit « Nul n'a mieux mis en lumière la contemporanéité incessante de Paul que Pasolini, un des plus grands poètes de notre temps. Son but était de faire de Paul un contemporain sans rien modifier de ses énoncés. Résultat, c'est le trajet d'une sainteté dans une actualité, Rome et New York, capitale de l'impérialisme américain, le foyer culturel qu'est Jérusalem occupé par les Romains, foyer aussi du conformisme intellectuel et Paris. Sous la botte allemande, la petite communauté chrétienne balbutiante est représentée par le résistant, tandis que les pharisiens sont les péténistes. Enfin, les pharisiens sont les péténistes quand on pense à ce qui est arrivé aux descendants des parisiens du fait de Pétain, entre autres, enfin, et de la collaboration française à la solution finale, on en reste médusé, si vous voulez. Mais là, c'est peut-être effectivement les excès d'un emploi métaphorique des termes et donc d'une manipulation de l'histoire qui, je dois dire, met très mal à l'aise.
Enfin, finalement, il n'a pas tourné ce film, donc ça veut dire qu'il en a peut-être été conscient. Cela dit, on peut rapprocher si on vous suit dans la critique de la métaphore, on peut parler de Salo, son dernier film. Oui. Parce que là aussi, la métaphore lui a été critiquée, lui a été reprochée, parce que utiliser une métaphore sexuelle pour parler du fascisme et du nazisme, c'était évidemment extrêmement... Il n'était pas le premier à le faire, hein. Liana Cavani l'avait fait. Mais en même temps, c'était peut-être aller trop loin dans la métaphore. Mais là-dessus, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que Salo est un film difficile à suivre intégralement. On peut être stupéfait par la force du film et par sa beauté aussi. Mais en même temps, on est gêné par le mélange du discours sexuel et du discours politique.
Oui, d'un autre côté, Salo est un peu... le mérite de mettre les admirateurs inconditionnels de Sade devant leurs responsabilités. Parce que si on met ça dans l'image, ça donne ça.
Oui, il faut quand même...
Ça, oui, mais peut-être que c'est pas si mal.
Les deux, d'ailleurs, Barthes et Foucault, tous les deux admirateurs de Sade, ont fait le même reproche, d'ailleurs, en disant on ne peut pas mettre en image Sade. Le propre de Sade est justement de jouer sur une imagination qui ne doit pas être réalisée. Qui ne doit pas être.
Oui, effectivement, Olivier, là, il faut quand même aussi, encore une fois, à chaque fois, les Pasolini intervient toujours dans un certain contexte, en tenant compte de ce contexte. Et là, en fait, il avait émergé de manière assez surprenante en France, au cours des années 60, un Sade d'extrême gauche, avec Klossowski, Foucault, Barthes, Une citation que j'ai trouvée de Raoul Van Eghem, parue en 67 dans son traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. « Je veux au passage saluer Sade. Il est, par son apparition privilégiée à un tournant de l'histoire, autant que par son étonnante lucidité, le dernier des grands seigneurs révoltés. » Et enfin, bon, il y a tout un paragraphe à la gloire de Sade. Et il dit « Il est bien temps que les révolutionnaires lisent Sade avec autant de soin qu'ils en mettent à lire Marx. » Bon, donc en fait, vous voyez, la révolution, c'est Marx avec Sade. Et Pasolini, lui, en fait, en tournant un film qui s'appelle « Salo ou les 120 jours de Sodome », Salo, c'est la dernière république que fasciste, voilà, il veut mettre quand même à ses intellectuels, un peu, au sens propre, le nez dans leur caca.
Oui, si on peut dire.
Bah oui, oui, raison, non, mais...
Avec plus d'ambiguïté
que ça, bien sûr.
Je ne crois pas qu'il tournerait en dérision totalement les défenseurs de Sade. D'ailleurs, quand on voit dans le générique les livres qui ont inspiré Salo, il cite pas de manière ironique, il cite le texte de Fourier Loyola de Barthes, Simone de Beauvoir également. Donc je veux dire, je crois pas qu'il se soit dissocié de manière ironique des intellectuels turiféraires de Sade.
Oui, mais alors, pourquoi il appelle ça Salo ou les 120 jours de Sodome, hein?
Parce que ça ne veut pas dire qu'il estime que Sade était fasciste. Ça veut dire qu'il utilise le discours de Sade sous forme métaphorique. Donc, je veux dire qu'il y a quand même des textes révolutionnaires de Sade. Hein, et on peut pas quand même...
Oui,
même,
c'est vrai. Il n'est pas forcément réductible à ça.
Non,
mais il y avait une... Si vous voulez, moi, je suis par ailleurs un admirateur de Barthes, mais quand il explique que le principe de délicatesse est à l'œuvre chez Sade, on a l'impression qu'il tire un peu les choses, quoi. Le paradoxe va trop loin. La littéralité, c'est ça. Alors on dit, on peut pas le mettre en image, mais c'est aussi parce que c'est absolument terrible. Et il est dommage même que les admirateurs ne le disent pas. Ils pourraient dire que ça inspire une espèce de peur, voire de répulsion. Or, cette répulsion, elle est considérée comme stupide, ou presque arriérée. C'est ça aussi qui peut être gênant dans la forme,
non, mais c'est
certain, conformiste prise par l'admiration.
Non, c'est certain, mais ce qui est passionnant, on va laisser ça tout de même, mais ce qui est passionnant chez Sade, c'est qu'il a poussé les limites de la littérature, ce qui était acceptable par l'imagination. C'est ça qui est intéressant.
Vous avez absolument raison. Alors, je vais dire un dernier mot sur le pharisien avant d'entamer un autre chapitre. Parce que ça nous ramène aux jeunes et au discours des cheveux. C'est un article de Lévinas, « Le pharisien est absent ». Le pharisien en a vu dans sa vie, il en a entendu chez ses maîtres, on ne peut l'éblouir aisément. Il sourit des jeunes hommes qui veulent la vérité comme un bloc monolithe, qui insèrent, comme il dit, tous les fils du réel dans un même et unique vêtement. Voilà, donc on a dit beaucoup de mal du pharisien et dont Pasolini, alors je voudrais œuvrer ici à sa réhabilitation. Je ferme cette parenthèse et je vous propose une autre citation de Kao. Ça va au-delà, si vous voulez, de la nostalgie du monde paysan. Et voici que tout ce qui des siècles durant a semblé pérenne, et là en effet été, jusqu'à 2 ou 3 ans, commence soudainement à se désagréger dans le même temps. Autrement dit, comme parcouru par une commune volonté, Venise agonise, des hameaux s'effondrent en Lombardie, en Toscane, en Sicile, et sont en train de se transformer en ruines. Des fresques qui semblaient incorruptibles jusqu'à quelques années commencent à présenter des lésions irréparable. Et ça, c'est très beau. Alors il ajoute, si un enfant sent qu'il n'est plus aimé, désiré, il se sent en trop. Il décide inconsciemment de tomber malade et de mourir. Et c'est ce qui arrive. Pierre, bois, couleur, c'est ce que sont en train de faire les choses du passé. Alors, j'ai pensé en lisant ce texte à Fellini-Roma, évidemment les fresques qui s'évanouissent, qui s'estompent dans le métro. Et puis j'ai aussi pensé à Notre-Dame.
Évidemment.
Et Notre-Dame, et par-delà Notre-Dame, le délabrement du patrimoine chrétien en France. Pasolini aussi a des mots pour ce passé qui disparaît. Je trouve que ça, c'est d'une force extraordinaire, Olivier Rey.
Oui, il est extrêmement sensible à ça. Mais il était aussi sensible, si vous voulez, à un patrimoine immatériel, qui était donc les cultures populaires, et puis aussi un patrimoine matériel très, très humble. En 1974, il y a eu un court-métrage qui a été projeté sur la RAI, et c'était une émission qui, chaque semaine, proposait à un intellectuel de parler d'un lieu qui lui était cher. Et Pasolini, lui, a choisi un village d'Orté, c'est dans la province de Viterbe, je crois, enfin, dans le Latium, et c'est un village... Oh, qui n'est pas, vous voyez, c'est pas Venise, ça n'est pas un haut lieu touristique, mais en fait c'est un village qui est perché sur un rocher. Il y a une harmonie dans l'ancrage de ce village sur son rocher qui est absolument extraordinaire. Et puis on avait commencé à construire des HLM à côté qui rompaient complètement cette harmonie. Et Pasolini est extrêmement sensible à ça. Il disait, il faut se battre pour Orté comme on se bat pour Venise. Enfin, et il voyait l'enlaidissement de l'Italie, ça le rendait absolument malade. Juste une phrase, il dit, quand il parlait justement du cataclysme anthropologique, il disait, je vis essentiellement ce cataclysme dans mon corps. C'est de cette expérience existentielle, directe, concrète, dramatique, corporelle, que naissent en conclusion tous mes discours idéologiques. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut comprendre aussi un certain usage du vocabulaire que vous pouviez à juste titre lui reprocher. C'est parce que il y a un moment où précisément ça n'est plus, voyez, c'est pas un philosophe qui parle. C'est quelqu'un qui vit tellement intensément les choses dans son corps même que ce genre de phrase peut sortir de lui.
René Tsekati.
Enfin, je suis évidemment d'accord et en même temps, je peux citer un célèbre poème qui est « Je suis une force du passé », qui est un poème qui également lui a été reproché parce qu'on y a vu une espèce de déclaration réactionnaire et en fait, il parlait uniquement de ces ruines et de tout ce monde qui était en train de disparaître et dans ses poèmes, il... Aussi, pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, il explique comment il allait payer de son corps même son attachement à ses convictions. Hein. Il s'est comparé à un chat écrasé. Et quand on a vu les photographies du corps de Pasolini après son assassinat, c'était exactement les visions qu'il avait. Je peux dire un mot à propos de Notre-Dame, puisque vous avez évoqué Notre-Dame. Parce qu'il y a une chose qu'on peut rappeler, qui est une chose tout à fait étonnante, c'est que quand... l'évangile selon saint Matthieu a été projeté à Paris, il a été projeté à la mutualité et à le débat qui a eu lieu à Notre-Dame. C'est une des rares choses qui ait pu avoir lieu, un débat donc tout à fait laïque, puisque c'était un débat sur un film, évidemment, auquel participaient des religieux. Hein, et ça avait lieu dans Notre-Dame. L'idée que
c'est l'archevêque de Paris qui avait ouvert Notre-Dame au débat.
Absolument, l'archevêque de Paris avait ouvert le débat et avait, en convoquant bien sûr des religieux, dont la plupart ne contestaient pas d'ailleurs le film. Et ça a été une des positions un peu ambiguës de Pasolini qui s'est vue brusquement plébiscitée par une religion catholique à l'égard de laquelle il avait un regard critique. Et donc c'est assez étonnant.
Alors, d'un autre côté, on retrouve là la critique pasolinienne de la société de consommation, parce que quand le patrimoine est sauvé, c'est souvent à usage touristique. Il est recyclé en tant que gisement culturel, en tant qu'attrape touriste, justement, donc en tant qu'objet de consommation. On peut même s'inquiéter du geste contemporain qui doit... architectural contemporain qui doit couronner Notre-Dame, dit-on, parce que peut-être cela sera-t-il fait en fonction de l'attrait touristique de Notre-Dame plutôt que en fonction de l'édifice lui-même et de ses exigences intérieures. Donc là, on voit quand même ce que peut faire la consommation pour soi-disant remettre le patrimoine d'aplomb, mais immédiatement dans un cadre qui est celui du tourisme et exclusivement du du tourisme.
Bien sûr, bah, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut rebâtir Notre-Dame en 5 ans, bon, 2019 plus 5, ça fait 2024, donc en fait, il faut que Notre-Dame soit remise en état pour les Jeux Olympiques. Et puis par ailleurs, ça n'a strictement aucun sens de fixer un objectif...
Ah, c'est pas lui qui a dit les Jeux Olympiques, alors peut-être que c'est 5 ans. Lui dit...
Mais pourquoi 5 ans?
Alors lui dit, il faut lui faire ce crédit peut-être, 5 ans pour que ce soit une remise en état à hauteur d'homme, c'est-à-dire que pour que tous les Français puissent se dire... Je remettrai les pieds dans Notre-Dame. Mais écoutez, Anne Hidalgo, oui, mais... elle a été beaucoup plus brutale. Elle a dit pour les Jeux Olympiques.
Ah, voilà.
Ça, elle a joué carte sur table. Puis... Il s'agit de tourisme et exclusivement de tourisme. Au moment même où la France se réapproprie le patrimoine à travers la douleur qu'elle en éprouve. C'est-à-dire, c'est le patrimoine non pas comme attrape-touriste, mais comme partie de notre être. Et Anne Hidalgo dit pas du tout.
Et puis on pourrait très bien dire, bah ça prendra le temps qu'il a... quand les bâtisseurs de Notre-Dame se sont mis à construire Notre-Dame, ils se sont pas donné une deadline, ils se sont lancés dans un chantier qui serait fini quand il serait fini, et ça a mis extrêmement longtemps. Là, il y a des travaux à faire, il faut les faire, on verra combien de temps ça prend. Et d'autre part, on peut très bien se dire que si on ne revoit pas Notre-Dame remise en état, bah ce sera nos enfants ou nos petits-enfants.
Oui, voilà, ça,
le fait d'en être à 5 ans, si vous voulez, c'est vraiment, on est vraiment rentré dans cette ère où la projection dans le futur devient manifestement extrêmement problématique.
Non, mais le président de la République dit, on a mis 19 ans pour reconstruire la cathédrale de Reims, qui avait été complètement détruite par les bombardements allemands en 1914. Et on a mis 19 ans à l'époque, elle a été détruite, peut-être... Peut-on procéder plus rapidement aujourd'hui pour une cathédrale qui ne s'est pas effondrée? Bon, je veux pas plaider sa cause, si vous voulez, mais je suis d'accord avec vous pour penser que la date des Jeux Olympiques affirmée comme telle a quelque chose d'obscène aujourd'hui.
Je peux apporter un grain de sel pasolinien, parce que dans les entretiens qui viennent d'être traduits, il y a une évocation d'un poème de Pasolini qui est l'ode à Charles Martel, poème que du reste j'ai également traduit. Et Pasolini a écrit un texte très très étonnant. Au moment d'un tournage, il est allé à Poitiers. Et donc, il a parlé de Charles Martel, et alors il dit qu'il défend, et il défend l'idée réactionnaire que si les Arabes s'étaient installés en Europe, ça aurait été finalement mieux. Et il dit, attention, je donne là un argument qui paraît de gauche, mais c'est un argument de droite. Parce que je veux dire que les Arabes sont féodaux et auraient maintenu un état féodal qui peut-être aurait été préférable. Vous voyez jusqu'où ils pouvaient amener le paradoxe. C'est un texte très très étonnant qui ne met pas en cause du tout hein, le christianisme profond de Pasolini, mais qui montre son regard volontairement provocant.
Oui, enfin, on peut espérer qu'il ne sera pas exaucé, ce vœu en tout cas. Mais justement, venons-en à cette réputation de réactionnaire.
De toute façon, nous n'en sommes plus autant féodaux nulle part. Donc.
Nulle part, bon, c'est vrai. Mais revenons justement à cette réputation de réactionnaire qui était celle de Pasolini. Et vous le dites dans la biographie que vous lui avez consacrée, René de Secatti, ses positions étaient jugées réactionnaires par ses proches, par ses amis, et vous dites contre la jeunesse, on a vu ce qu'il en était, contre l'avortement, contre le divorce. Alors commençons par le divorce. Quelle était la position de Pasolini sur le divorce?
Je crois que le problème, c'est que je crois qu'on a beaucoup caricaturé hein, la position de Pasolini contre le divorce, parce qu'en fait le Parti communiste soutenait évidemment l'abolition de la loi contre le divorce, donc la possibilité du divorce. Et Pasolini a écrit un texte qui disait c'est la défaite du Parti communiste. Et parce qu'il y a eu une espèce de mouvement de masse apparemment contre cette abolition. En réalité, Pasolini était beaucoup plus nuancé. Mais je pense que Pasolini avait une espèce qui partageait d'ailleurs avec Elsa Morante, qui elle-même n'a jamais voulu divorcer de Moravia, dont elle était mariée, dont elle était séparée depuis très longtemps, parce qu'il y avait une. Il faut toujours penser Et c'est la même raison pour l'avortement. C'est la dimension sacrée pour Pasolini. Et je pense que l'idée du respect du sacrement était quelque chose de probablement très très fort en lui, comme pour l'avortement. C'est-à-dire l'idée de s'opposer à une sorte de conception, la naissance étant pour Pasolini le moment de la conception et non pas le moment de l'accouchement. Donc ça, ce sont des positions évidemment extrêmement dangereuses parce que on ne tient absolument pas compte de la volonté de la mère ou de la volonté des personnes qui veulent divorcer. Donc c'était un côté réactionnaire assumé qui lui a mis à dos les féministes, évidemment, qu'il avait pour amis en plus. Et c'était des personnes qui étaient très, comme Dacha Maraini, des gens qui étaient très proches de lui. Mais ça ne le gênait pas de mettre mal à l'aise des gens proches.
Alors, sur l'avortement, les choses sont clarifiées dans les lettres luthériennes. Pasolini écrit « Qui est pour l'avortement ? Personne, évidemment. Il faudrait être fou pour être favorable à l'avortement. La question n'est pas d'être pour ou contre l'avortement, mais pour ou contre sa légalisation. Eh bien, moi, je me suis prononcé contre l'avortement et pour sa légalisation. Naturellement, puisque je suis contre l'avortement, je ne puis être favorable à une égalisation totale, sans discrimination, fanatique, rhétorique. Donc,
et il ajoute même
la légalisation, il est pour, il ne revient pas là-dessus.
Comme si la légalisation de l'avortement était une victoire joyeuse et apaisante, je suis pour une légalisation prudente et douloureuse.
Voilà. Oui, c'était à peu près l'argumentation de Simone
Veil. Exactement. Hein. Exactement.
Et de manière générale, d'ailleurs, personne ne pense que l'avortement est une partie de joie. Enfin, donc, simplement comme l'avortement était une réalité, il s'agissait de la rendre la plus vivable possible.
Oui, alors maintenant, un mot quand même sur la mort de Pasolini. Vous avez parlé de cet assassinat. Qu'est-ce qu'on sait de cet assassinat ? Est-ce une rencontre ? Est-ce davantage ? Vous avez beaucoup étudié la question plusieurs reprises.
J'ai beaucoup écrit dessus, mais écoutez, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé, qui n'est évidemment pas définitive ni totalement prouvée, qui est plus intuitive, enfin, à part qu'il y a des éléments effectifs, c'est ce qui est certain, c'est que Pino Pelosi, qui est donc celui qui a été accusé et qui s'est accusé lui-même de l'avoir assassiné, n'était probablement pas l'assassin de Pasolini. Il ne l'a pas rencontré pour la première fois ce soir-là, mais il le connaissait depuis 3 mois. Et Pasolini était victime manifestement d'un chantage, conscient, il le savait. Et donc il est allé apparemment, de sa propre volonté, sur le lieu où il a été assassiné, en s'attendant évidemment pas à être assassiné, mais il pensait rencontrer des gens qui allaient lui demander de l'argent. Maintenant, pour quelles raisons il y avait un chantage ? Il y a le cas de Pétrole. Donc Pétrole est le dernier livre que Pasolini ait écrit, qui est inachevé par la force des choses, et dans lequel il mettait en cause de manière très directe les assassins de Enrico Mattei, qui était le président de l'ENI, donc l'équivalent de Alpha Aquitaine.
Mais le livre n'était pas publié à l'époque.
Le livre n'était pas publié, mais il semble que des pages aient été volées, épisode que conteste l'héritière de Pasolini, mais qui, moi, me semble quand même tout à fait possible. Et on savait de toute façon qu'il avait parlé suffisamment à ses amis, on savait qu'il enquêtait profondément sur les circonstances de l'assassinat de Mattei et sur toute l'histoire de l'ENI. Donc, et puis bon, il y avait beaucoup d'autres choses. Il y avait des articles très très violents qu'il avait écrits, dont le fameux article qui s'appelle « Le roman des massacres », qui se trouve dans les écrits corsaires, où il met en cause très directement des représentants de la démocratie chrétienne et il met en cause toutes les enquêtes qui ont été faites sur les différents attentats très très violents dont les Italiens étaient victimes. Donc il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles moi ce qui m'a fait longtemps résister à l'idée d'un complot et d'un assassinat politique, c'est l'idée qu'un intellectuel n'est pas si dérangeant que ça dans une démocratie. Il est dérangeant dans une tyrannie, une dictature, ça c'est certain. Dans une démocratie, est-ce que c'est vraiment le cas ? Mais est-ce que l'Italie n'était pas en train de devenir une dictature ? C'était ça le problème. Donc, en tous les cas, malheureusement, toutes les preuves ont disparu, puisque la voiture est restée sous la pluie, donc les empreintes digitales ont disparu. Alors, on ne saura probablement jamais.
Donc, vous ne souscrivez plus à la thèse du crime crapuleux?
Non. Ni crime sexuel, ni crime crapuleux. Là, je suis maintenant totalement d'accord avec la position des amis proches. Et Oriana Fallaci, il faut dire, qui a beaucoup été critiquée, Oriana Fallaci avait fait une enquête très rapide, 15 jours après la mort de Pasolini, et on s'aperçoit maintenant qu'elle avait dit des choses extrêmement justes, qu'avait soutenu en partie Moravia et Laura Betti, surtout l'actrice qui était très proche de lui. Après, il y a eu différentes thèses qui sont venues contredire, etc. Et maintenant, on revient à cette thèse.
Et quelle a été la réaction des Italiens à la mort de Pasolini? Est-ce que ça a été un drame national, un traumatisme?
Non, ça a été, vous savez, l'enterrement a été organisé par le PCI. C'est le PCI qui a organisé la présentation du corps au Campo dei Fiori. Donc, c'est d'ailleurs très, très émouvant, l'idée de cette retrouvaille dans la mort. Et cette mort a été impopulaire. Cette mort a été une manière de réattaquer Pasolini.
Bien, j'espère que aujourd'hui nous aurons su lui rendre justice. Je vous remercie tous les deux. Alors, René de Secatti, je rappelle que vous avez écrit Le Christ selon Pasolini, le dernier livre que vous avez consacré chez Bayard, et vous publiez au Mercure de France Mes années japonaises. Olivier Rey, vous venez de publier Heure et malheur du transhumanisme chez Desclés de Brouwer, et nous avons largement cité Le Chaos de Pier Paolo Pasolini aux éditions du Rouge et du Noir, ainsi que Les Écrits corsaires chez Flammarion et Les Lettres luthériennes aux éditions du Seuil. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Julien Doumingue. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.